Luc Lavoie, bonjour.
Salut Bernard.
Alors, on parle élection un petit peu pour commencer?
On ne peut pas faire autrement, l'élection est dans quelques jours. Alors, je fais référence au sondage Nanos. Nanos a vendu des services quotidiennement dans CTV News et Globe and Mail. Vous obtenez une mise à jour quotidienne avec un système d'échantillonnage et de cueillette des données qui est assez sophistiqué. Alors, en d'autres mots, c'est assez fiable.
Oui.
Alors, le patron, propriétaire, tout ce que tu veux, de cette organisation Nanos s'appelle Nick Nanos. Et il dit, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il y ait d'autre chose qu'une victoire libérale et probablement minoritaire. Il parle du fait que les résultats, au fond, vont être presque les mêmes qu'on a eus en 2019. Alors, c'est... En chiffres nets, les libéraux, dans le dernier sondage, sont à 31,9. Les conservateurs sont à 30,4. Et puis, le NPD est à 20,3. Mais ils n'ont pas assez d'échantillonnage pour que je sois capable de prendre au sérieux. Ben, c'est pas que je le prends pas au sérieux, mais le Bloc québécois est à 5,8, mais c'est à l'échelle canadienne.
Ouais.
J'ai pas le chiffre ici au Québec.
Ouais, c'est ça.
C'est où les derniers, Bernard, qu'on a vu? C'est Léger, hein? Léger qui nous avait dit qu'au Québec, le Bloc était juste derrière les libéraux, quelque chose comme ça. Hein?
Ouais, mais honnêtement, Luc, c'est toujours un ou deux points là, qui séparent les libéraux des bloquistes dans les derniers sondages, là, parce qu'au début...
Ça se maintient, oui, ouais, c'est stable.
C'est ça, puis les bloquistes, est-ce qu'ils vont finir premiers chez les francophones? Probablement, mais attendons de voir. Hein? Attendons de voir, c'est les électeurs qui vont décider ça, c'est pas nous.
Moi qui aime ça, faire des prédictions cette année, j'arrive pas, Bernard, en fait. J'arrive pas à saisir exactement cette dynamique, surtout depuis que notre ami le grand, voyons donc...
Le grand Maxime.
Le grand Maxime Bernier.
Ouais.
On l'a pas vu venir, ça.
Personne
ne l'a vu venir. Puis au Canada anglais, là, j'ai un ami qui vient de m'écrire de Victoria il y a à peu près une heure. Il me dit, écoute, j'ai été en mainland, ça veut dire qu'il était à Vancouver, tout ça. Puis il me dit, le phénomène Bernier est renversant. Les gens, ils disent, je m'arrêtais dans des pâtisseries pour aller chercher un croissant le matin. Paf, on demande, puis les élections... Ça s'en va vers Bernier. C'est assez incroyable, hein?
Oui. Mais
Bernier pourrait faire jusqu'à 10 %.
Là. Oui, c'est ça. Et là, on n'exclut plus maintenant qu'il fasse élire possiblement une députée en Ontario, là.
Oui.
Chelsea Hillier, dans le comté de Elgin, Middlesex, London. Donc, pas loin de London. C'est possible. Elle a fait des rassemblements, là. Tu vas voir ça, ces réseaux sociaux, là. Ils étaient des milliers à l'acclamer. Évidemment, c'est des gens qui viennent de toutes parts, là. C'est pas juste des gens de son comté. Mais Bernier s'est rendu dans son comté et tout ça. Et moi, je l'ai dit à matin dans ma chronique avec Paul. Il va surprendre Bernier. Il va surprendre. Il va faire dans certains coins du Québec, du Canada, puis du Québec, on verra. Mais je pense plus au Canada anglais. Il y a certains comtés où il va faire 10 %.
Oui, en Alberta, entre autres.
Tiens.
Le vrai territoire de ce qui était l'ancien Reform, c'est là qu'il joue très fort.
Ouais.
Et puis, ça peut... Et en fait, il peut n'avoir aucun député. Il aura quand même participé à cette élection. C'est 10 % que tu enlèves aux conservateurs. Grosso modo, là...
C'est ça. Ça peut faire la différence, honnêtement, entre minoritaire O'Toole et un gouvernement minoritaire Trudeau.
Absolument. Et ça, ouais, c'est quelque chose que je pense pas que O'Toole lui-même avait vu venir.
Non.
Mais il n'y a personne
qui l'a vu venir.
Ouais.
Ça s'est fait, écoute, ça s'est fait. Luc, c'est une campagne de réseaux sociaux. Le gars, il n'a pas été invité au débat.
Ouais.
Il a fait campagne par les réseaux sociaux. Et ses partisans se parlaient par les réseaux sociaux. Et puis, au fur et à mesure où on avançait dans la campagne, on voyait qu'il engrangeait de plus en plus de partisans. C'était comme du bouche à oreille.
C'est assez intéressant comme campagne d'avoir passé son message à travers uniquement les médias sociaux. On est en train d'apprendre des leçons là, de comment organiser de la politique.
Oui.
Et puis, dernier point qui vient du sondage Nanos, quand on leur demande qui serait le meilleur premier ministre, Trudeau est à 29,8, O'Toole à 27,8. Alors, dans les deux cas, ils sont en bas de leur parti. Normalement, tu souhaiterais, quand tu veux aller vers une victoire, que ton chef soit au moins aussi populaire que le parti lui-même.
Voilà.
Bon. Alors là, M. Trudeau vient d'avoir un autre appui extraordinaire. Ça va-tu lui donner un vote? Je ne le sais pas. Mais Hillary Clinton a donné son appui à Justin Trudeau.
Hier, c'était Barack.
Là, c'est Mme Clinton. Puis elle a, entre autres, insisté pour dire que le réseau national de garderie à 10 $ l'inspirait beaucoup. Puis elle a dit, je lui souhaite, ainsi qu'à nos voisins progressistes canadiens, le meilleur pour les élections de lundi. Ça, c'est Madame Clinton.
Ouais, j'ai hâte de voir les libéraux qui sont sortis là pour planter Legault quand il est appuyé autour en disant c'est pas à Legault de venir nous dire quoi penser là. Ils sont étrangement très silencieux quand c'est Barack Obama et Hillary Clinton qui disent aux Canadiens pour qui voter.
Mais je peux te dire, hein? Le vrai, Bernard, c'est vraiment bizarre. J'ai jamais vu ça. As-tu vu ça, non, qu'un président américain ou un très très fort politicien américain, un aspirant à la présidence, se prononce sur une campagne électorale? J'ai jamais vu ça.
En tout cas, c'est pas arrivé souvent. Mais honnêtement, Luc, ça n'aura pas d'impact.
Ça n'aura pas d'impact, puis je trouve qu'il y aurait pu, même que si jamais il y a un impact, ça va être un impact négatif. C'est le réflexe qu'on a toujours eu, puis la plupart des pays, c'est pareil. Tu viendras pas me dicter comment faire mes affaires pour le meilleur et pour le pire.
Voilà.
Alors, encore une fois, Bernard, un élan de solidarité venu des syndicats du secteur public. Des dizaines de milliers de parents pourraient se retrouver sans garderie dès le 24 septembre. 11 000 travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance affiliés à la CSN ont annoncé jeudi le déclenchement d'une grève de 10 jours. Ah! Écoute ce qu'a dit, là. Il y a une, comment elle s'appelle, là, Mme Bachon, Stéphanie Bachon, là, du syndicat. Là.
La Fédération de la Santé et des Services Sociaux de la CSN, oui.
Voilà. Bon. Et là, elle dit, là, je la cite, par respect pour les parents. J'en viens pas qu'on puisse écrire ça. Par respect pour les parents qui sont très nombreux à nous appuyer, laisse-moi avoir des doutes, nous nous engageons à les informer à l'avance afin de leur permettre de trouver des solutions de rechange. C'est insultant! Les Québécois payent des taxes comme c'est pas possible. Puis là, ils veulent...
Je le crois pas. Si tu permets, Luc, quand elle dit par respect pour les parents qui sont très nombreux à nous appuyer, je pense pas qu'elle veut dire que les parents sont très nombreux à appuyer la grève, mais je pense que les parents sont très nombreux à appuyer l'amélioration des salaires pour les éducatrices on est en pénurie, Luc. Si on veut avoir des éducatrices s'occuper de nos enfants, il faut leur donner des meilleurs salaires.
Je suis pas en désaccord, mais va-t'en pas en grève en plein milieu d'une pandémie. C'est ça que je comprends pas, Bernard. Je suis pas capable de comprendre ça puis de l'accepter. C'est un service fondamental. Prends les travailleurs là, qui viennent juste de recommencer à travailler dans les restaurants. Ces gens-là, là, ça a pas de congé de maladie, ceux-là. Là. Alors, bon, ils sont deux travailleurs dans la maison, l'homme, la femme, deux enfants, on les met à la garderie. Qu'est-ce qu'on fait? Bang, il perd sa journée de salaire parce que c'est des pourboires qu'il fait vivre. Je te donne un seul exemple. On est en pleine pandémie. J'aurais aimé que nos leaders syndicaux se conduisent d'une façon... De façon à respecter la civilité, de notre société. On est tous ensemble dans cette affaire-là. Après ça, ils se battront pour leur salaire, mais je continue de penser qu'il est temps qu'on revoie le mécanisme de négociation publique
dans ce cas-ci, je veux pas gosser, là. Mais tu sais que les garderies, ça fait pas partie de l'État, là. C'est pas des employés de l'État. Ben, c'est des, mais Luc, c'est important. C'est des employés de CPE. Qui donc sont des organismes à but non lucratif, là. Tu comprends?
Oui.
Je comprends que c'est financé par l'État, pour l'essentiel, c'est financé par l'État, la contribution des parents, là.
C'est une belle entourloupette en termes d'organigramme, là, mais ça revient à prendre tes taxes dans tes poches.
Oui. Non, mais c'est ça. Mais c'est pas des employés de l'État. C'est tout ce que je voulais dire, là.
D'accord.
Mais par ailleurs, Luc, c'est un vrai problème, la pénurie d'éducatrices, là. Puis on n'a pas le choix. Non, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu te poses la question. Combien t'es prêt à payer, toi, pour avoir quelqu'un qui va s'occuper de tes enfants? Puis si c'est pas assez payant, elle va s'en aller ailleurs. Fait qu'à un moment donné, il faut décider aussi comme société, on est-tu prête à le donner le salaire qui va faire en sorte que des femmes, et dans certains cas des hommes, vont avoir le goût d'aller passer le journée à s'occuper de nos petits mox. Par exemple, à les écouter brailler, puis à les chouchouter, puis à les amuser, puis à les morver. Tu comprends?
À faire leur travail.
C'est bon. Fait que, moi, je vais te dire, la réserve que j'ai, là, c'est que le gouvernement, il a mis sur la table une bonne offre, une très bonne offre pour les éducatrices. Bon.
Oui.
Alors, Là, avant d'aller à la grève, est-ce que tu sais, y a pas un espace où ils pourraient s'entendre qui ferait en sorte qu'on éviterait la grève? Moi, je l'aurais souhaité. Je trouve des fois que la grève, au lieu d'être le dernier recours, je trouve qu'on y a recours un peu trop vite.
Bon, voilà, on se comprend, Bernard. Admettons, au lieu... En fait, j'ai pas envie de lancer le grand débat. Est-ce qu'il pourrait y avoir... On pourrait enlever le droit de grève d'un secteur public ou pas. J'ai mon opinion là-dessus, tu la connais, mais ce qu'on a, là, c'est des gens qui vont devoir trouver une méthode, prendre plus de payer leurs taxes pour subvenir, pour remplacer la garderie, vont perdre de leur salaire. Ça me choque beaucoup. Beaucoup. Ouais.
Bon, là, c'est ils sont supposés déclencher ça...
24 septembre, je pense.
Ouais. 24 septembre, déjà?
Je regarde, là.
24 septembre, ça veut dire...
24 septembre!
Bon, ça nous laisse encore combien de jours pour s'organiser, là? Bon, ça laisse une semaine.
Une semaine
exactement. Bon, on va espérer qu'ils vont en venir à une entente dans la prochaine semaine, Luc.
Et surtout, arrêter de faire niaiser le monde en leur disant « Non, il va, non, on va en grève, non, il va pas, oui, on y va. » Et peux-tu savoir ce que c'est, ça, pour un jeune couple qui a ses enfants? Hein? C'est-tu oui, c'est-tu non, c'est qui, c'est quoi? On pourrait avoir une vie un peu meilleure que ça, au prix que ça nous coûte.
Bon, vite, Luc, une dernière. Une dernière, OK?
Une dernière, bon, ben les travailleurs de la santé, hein, c'est... attendez, j'y reviens parce que j'étais sur l'autre dossier, là. Selon les plus récentes données de l'Institut national de la santé publique du Québec, quelques 1360 travailleurs de la santé ont été déclarés positifs à la COVID-19 entre le 1er juillet et le 14 septembre 2021. Bon! Tu te souviens hier de celui qui nous avait appelé pour nous dire que la moitié des gens qui se présentaient à l'urgence avaient la COVID et étaient vaccinés? C'est faux. C'est faux. On est encore loin de ça. Puis, tu vois, c'est plus de 13 541 employés qui avaient été déclarés positifs puis retirés temporairement de leur travail en janvier et juin 2021. Donc, réveillons-nous. On va finir là-dessus, Bernard. Il faut, s'il vous plaît, aux travailleurs de la santé, allez vous faire vacciner. Faites-le, s'il vous plaît.
Oui. Puis j'ai eu une statistique hier, on va se laisser là-dessus, Luc. Une bonne source m'a dit, il y a 1000 préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD de l'île de Montréal. Il y en a 1000 qui ne sont pas vaccinés.
C'est exclu. Il y a d'autres qui ont été infectés déjà.
Oui. Non, mais je te parle encore. Maintenant. Ils ont vu, là. Les CHSLD de Montréal, on s'entend-tu? Oui. Il y en a eu de la COVID, là, en particulier dans la première vague. Ils ont vu les gens mourir, là. Puis Christy, c'est pas assez pour les amener à se faire vacciner. 1000 préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD de Montréal, pas encore vaccinés. Maudit.
Moi, sais-tu comment j'appelle ça sans être méchant? C'est carrément irresponsable, ce comportement-là.
On pourrait dire que c'est de l'égoïsme aussi. Il y a de l'égoïsme là-dedans, à un moment donné. OK, Luc, hey, bonne fin de semaine.
Bon week-end.
Prends soin de toi, mon gars.
À nos auditeurs aussi.
Absolument.